इन्वाइटेड मांडे si nous faisions une yoga collective et quelles sont les conditions d'une yoga collective? Je dois d'abord dire que pour faire une yoga collective, il faut être une collectivité. Et vous parlez des... des différentes conditions requises pour être une collectivité. Mais la nuit dernière, j'ai eu une vision symbolique de notre collectivité. J'ai eu cette vision au commencement de la nuit. Et elle m'a éveillé sur une impression suffisamment désagréable. Et puis, je me suis rendormi et je l'avais oublié. Et tout à l'heure, quand j'ai pensé à la question qu'on m'avait posée, voilà que cette vision est revenue. Elle est revenue avec une grande intensité. Et d'une façon si impérative que maintenant, lorsque je voulais vous dire, justement, quel genre de collectivité nous voulons réaliser d'après l'idéal que Sri Aurobindo en a donné dans le dernier chapitre de la vie divine. Une collectivité supramentale, gnostique. La seule qui puisse faire le yoga intégral de Sri Aurobindo et se réaliser physiquement dans un corps collectif, progressif et de plus en plus divin. Le souvenir de cette vision est devenu si impératif qu'il m'a empêché de parler. Son symbole était très clair. Quoique d'un ordre tout à fait familier, pour ainsi dire. Mais justement, dans sa familiarité, d'un réalisme sur lequel on ne peut pas se tromper. Si je vous le racontais en détail, vous, probablement, vous ne pourriez même pas suivre. C'était assez compliqué. C'était l'image d'une sorte, comment dire, d'un immense hôtel. Toutes les possibilités terrestres étaient logées dans des appartements différents. Et tout cela était dans un état de transformation constant. Des fragments ou des ailes entières des bâtiments étaient tout d'un coup détruits et reconstruits pendant que tous les gens logeaient là-dedans. Ce qui fait que si on se déplaçait même à l'intérieur de cet immense hôtel, on risquait de ne plus retrouver sa chambre au moment où on voulait y rentrer parce qu'elle avait été démolie. Et on était en train de la reconstruire sur un autre plan. Il y avait de l'ordre, il y avait de l'organisation, et il y avait ce chaos fantastique que je dis. Et alors là-dedans, il y avait un symbole. Il y avait un symbole qui s'applique certainement à ce qu'il écrit ici pour la nécessité de la transformation du corps. Quel genre de transformation devrait prendre place pour que ça puisse être une vie divine? C'était à peu près comme ça. Quelque part, au centre de ce formidable bâtiment, il y avait une chambre qui était réservée dans l'histoire telle qu'elle paraissait, c'était à la mère et à sa fille. La mère était une dame, une vieille dame matrone très importante et qui avait beaucoup d'autorité. Et qui avait ses vues sur l'ensemble de la chose. La fille avait une sorte de pouvoir de mouvement et d'activité qui faisait qu'elle pouvait être partout à la fois tout en restant dans cette chambre qui était un peu plus d'une chambre, c'était comme une sorte d'appartement et qui avait surtout un caractère d'être très central. Mais elle était en constante discussion avec sa mère. La mère voulait garder les choses telles qu'elles étaient, avec le rythme qu'elles avaient et dans lequel il y avait justement cette habitude de démolir une chose pour en reconstruire une autre, et encore démolir une autre pour en construire une autre, ce qui donnait à ce bâtiment une apparence de confusion effroyable. Et puis la fille n'aimait pas ça. Et il avait un autre plan. Elle voulait surtout apporter quelque chose de tout à fait nouveau dans cette organisation qui était une sorte de super organisation qui aurait fait que toute cette confusion ne serait plus nécessaire. Finalement, comme il était impossible de s'entendre, elle avait quitté la chambre pour faire une sorte de visite générale. Elle a fait sa visite, elle a vu tout ça. Et puis, elle voulait rentrer chez elle, puisque c'était aussi sa chambre, pour prendre des mesures définitives. Et alors, c'est là que commence quelque chose d'assez particulier. Elle avait bien le souvenir d'où était cette chambre. Mais chaque fois qu'elle prenait un chemin pour y aller, où l'escalier disparaissait, où les choses étaient tellement changées qu'elle ne pouvait plus reconnaître sa route. Et alors, elle allait ici, elle allait là, elle montait, elle descendait, elle cherchait, elle sortait, elle rentrait. Et impossible de retrouver le chemin de cette chambre. Comme tout ça prenait une apparence physique, comme j'ai dit, très, très familière et très ordinaire, comme toujours, ces visions symboliques, il y avait quelque part l'administration de cet hôtel et une personne qui était comme la gérante, qui avait toutes les clés et qui savait où tout le monde logeait. Alors, la fille est allée à cette personne et lui a demandé « Pouvez-vous montrer le chemin de où je loge ?» Ah oui, certainement. C'est très facile. Tout le monde autour d'elle l'a regardé avec l'air de dire « Comment est-ce que vous pouvez dire ça ?» Mais elle s'est levée d'autorité, elle a demandé une clé, la clé de la chambre, elle a dit « Je vais vous conduire là. » Alors elle prend toutes sortes de chemins, mais tellement compliqués, tellement bizarres. Et puis, l'autre suit, n'est-ce pas? Avec très attentif pour ne pas la perdre de vue. Et juste au moment où, évidemment, on devait arriver à l'endroit qui était cette soi-disant chambre, tout d'un coup, la gérante, nous l'appellerons la gérante, avec sa clé, disparaît. Et le sens de cette disparition était si aigu que tout a disparu en même temps. Si, pour vous aider à comprendre cette énigme, je pourrais vous dire que la mère, c'est la nature physique telle qu'elle est, n'est-ce pas? Et la fille, c'est la nouvelle création. La gérante c'est la conscience mental, organisatrice du monde tel que la nature l'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire le sens organisateur manifesté le plus élevé dans la nature matérielle telle qu'elle est maintenant. Alors voilà, ça c'est la clé de la vision. Naturellement, quand je me suis réveillée, j'ai su immédiatement qu'est-ce que c'était qui pouvait résoudre cette ce problème qui paraissait absolument insoluble. La disparition de la gérante et de sa clé était un signe évident qu'elle était tout à fait incapable de mener à sa vraie place ce que l'on pourrait appeler la conscience créatrice de la du nouveau monde. Je l'ai su, mais je n'ai pas eu la vision de la solution, dans le sens que c'est une chose qui reste à être manifesté. Cette chose-là, n'était pas encore manifestée dans ce bâtiment, cette construction fantastique. Cette chose-là c'est justement le mode de conscience qui transformerait cette création incohérente en quelque chose de réel. De vraiment conçu, voulu, exécuté. Avec un centre qui est à sa place, une place reconnue avec un pouvoir efficace, réel. C'est tout à fait clair dans son symbole, dans le sens que toutes les possibilités sont là. Toutes les activités sont là. Mais dans un désordre et une confusion elles ne sont ni coordonnées ni centralisé. né, unifié autour de la vérité, de la conscience et de la volonté centrale, unique. Et nous en revenons alors à justement cette question du yoga. Collectif, qui ne peut se faire que par une collectivité. Et qu'est-ce que c'est qu'une collectivité? Ce n'est certainement pas une construction arbitraire comme en font les hommes, où ils mettent tout ensemble sans ordre et sans réalité. Et tout cela n'est tenu ensemble que par des liens illusoires qui étaient symbolisés par les murs de l'autel. Et qui en fait, dans les constructions humaines ordinaires, sont, si l'on prend comme exemple une communauté religieuse, depuis le bâtiment du monastère, l'identité de vêtements, l'identité d'activité, l'identité de même de mouvement. Je précise, tout le monde porte le même uniforme, tout le monde se lève à la même heure, tout le monde mange la même chose, tout le monde fait les, n'est-ce pas, fait les prières ensemble, etc., etc. Il y a une identité générale. Mais naturellement, là-dedans, il y a le chaos des consciences qui vont chacune selon son mode propre, parce que cette identité-là qui va jusqu'à une identité de croyance et de dogme est une identité tout à fait illusoire. Cette un des types les plus courants de collectivité humaine. Se grouper, se lier, s'unir autour d'un idéal commun, d'une action commune, d'une réalisation commune, mais d'une façon tout à fait artificielle. Et en opposition à cela, Sri Aurobindo nous a dit qu'une communauté vraie, ce qu'il appelle une communauté gnostique ou supramentale, ne peut exister que sur la réalisation intérieure de chacun de ses membres, de son unité et de son identité réelle, concrète, avec tous les autres membres de la communauté. C'est-à-dire que chacun ne doit pas se sentir comme un membre uni d'une façon quelconque avec tous les autres, mais comme tous en un, en lui-même. Pour lui, les autres doivent être lui-même autant que son propre corps. Et non pas d'une façon mentale et artificielle, mais par un fait de conscience, par une réalisation intérieure. Cela veut dire qu'avant de d'espérer réaliser cette collectivité gnostique, il faudrait que chacun devienne d'abord, ou tout au moins commence à devenir un être gnostique. Ça, c'est évident. Le travail individuel doit marcher en avant et le travail collectif suit. Mais il se trouve que sans aucune intervention arbitraire de volonté, la marche individuelle est, pour ainsi dire, contrôlée ou enrayée par l'état collectif. Il y a une interdépendance dont on ne peut pas se libérer totalement, même si on l'essaye. Et même celui qui, dans son yoga, essaierait de se libérer totalement de l'état de conscience terrestre et humain, serait dans son subconscient tout au moins lié à l'état de l'ensemble qui freine, qui tire en arrière. On peut essayer d'aller beaucoup plus vite, on peut essayer de laisser tomber tout le poids des attaches et des responsabilités, et malgré tout, la réalisation même de celui qui est tout en haut et le tout premier dans la marche de l'évolution est dépendante de la réalisation du tout, dépendante de l'état dans lequel se trouve la collectivité terrestre. Et ça, ça tire en arrière. Au point qu'il faut parfois attendre des siècles pour que la terre soit prête afin de pouvoir réaliser ce qui est à réaliser. Et c'est pourquoi Sri Aurobindo a dit aussi, quelque part ailleurs, qu'il y a une nécessité d'un mouvement duel et qu'à l'effort de progrès et de réalisation individuelle doit s'unir un effort pour essayer de soulever l'ensemble vers un progrès indispensable pour permettre le progrès plus grand de l'individu. Un progrès de la masse, on pourrait dire, qui permettrait à l'individu de faire un pas de plus en avant. Et après tout cela, je vous dirais que c'est pour ça que j'avais pensé il est utile d'avoir quelques méditations en commun pour travailler à la création d'une atmosphère commune, un peu plus organisée que mon grand hôtel de la nuit dernière. Voilà. Ainsi, le meilleur emploi qu'on puisse faire de ces méditations qui vont en se multipliant, puisque maintenant nous allons remplacer aussi des distribution par de courtes méditations. Le meilleur emploi qu'on puisse en faire, c'est d'aller trouver au fond de soi, aussi loin que l'on peut aller, l'endroit où on peut sentir, percevoir et peut-être même créer une atmosphère unique dans laquelle une force d'ordre et d'organisation puisse mettre chaque élément à sa place et faire surgir un monde nouveau, coordonné, hors du chaos qui existe en ce moment.